On part maintenant à la rencontre de l'astrophysicienne Vera Rubin. Avec toi, Bleuhen.
Vera Rubin, je ne sais pas si son nom te dit quelque chose, Louis. Pourtant, elle a réalisé des travaux de dingue en cosmologie. Cette astrophysicienne américaine est née en 1928 et est décédée en 2016. Et elle a notamment confirmé l'hypothèse de la matière noire. Elle a aussi encouragé les femmes à oser se lancer dans les matières scientifiques, largement réservées aux hommes à son époque. Et encore beaucoup aujourd'hui, il faut le dire.
Elle est vraiment stylée, cette femme-là. Et pourquoi tu nous en parles aujourd'hui ?
Déjà parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle, mais aussi parce que ce soir au Diapason, un spectacle de la compagnie Allais et Gaillant lui rend hommage en mêlant danse et théâtre. Cette compagnie lyonnaise se lance dans un cycle sur les femmes de science pour rendre hommage à celles qui ont trop souvent été oubliées. Pour la première pièce de ce cycle, c'est Charlotte Philippe, danseuse de longue date à la compagnie, qui a créé une pièce pour une danseuse et un comédien. C'est Gabriel Pérez qui est avec elle sur la scène. Tous les deux, à travers leur art et en faisant travailler l'imaginaire, ils racontent la vie de Vera Rubin, son parcours, ses choix, ses recherches scientifiques. Charlotte Philippe et Gabriel Pérez nous dressent un portrait de cette femme inspirante et nous expliquent la construction de leur spectacle.
Star, more than three times the size of our sun, ought to end its life how? With a collapse. The gravitational forces of the entire mass overcoming the electromagnetic forces of individual atoms and so collapsing inwards. If the star is massive enough, it will continue this collapse, creating a black hole where the warping of space-time is so great that nothing can escape, not even light.
Just come back from three spectacular nights and see things on my spectra that I've never seen before. So every day is really very exciting. I don't know what will come out of this. I don't know whether it will be major or minor, but it is an enormous pleasure to see things you've never seen before and to attempt to understand them.
Dark matter is a good term. Unknown matter may be a good term, but the fact that it's dark is its most prominent characteristic. I like dark matter.
Bon, moi, c'est des questions qui me touchent particulièrement, et je pense que c'est une question de science, le rapport à l'imaginaire et à la technique, mais aussi une question artistique. En lisant un bouquin, par exemple, sur le noir en astrophysique, j'avais vu que, par exemple, telle conception en astrophysique avait été découverte d'abord par un poète. C'est-à-dire que l'imaginaire avait dévoilé quelque chose que la technique avait confirmé plus tard. Et ça, c'est un truc qui me touche vachement, quoi. Et donc, ce que nous ne voyons pas, c'est effectivement la matière noire sur la scène. Bon, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais on peut imaginer dans ce qu'on ne voit pas. Et en imaginant, le visible est modifié, quoi, quelque part. Donc, ouais, ça, c'était un truc très important, l'imaginaire. Même si peut-être qu'on... On a un regard peut-être parfois un peu romantique là-dessus, parce qu'en réalité, Vera Rubin, au moment, en 1968, quand elle regarde le ciel, c'est des opérations très pragmatiques. C'est-à-dire, elle regarde, elle fait des mesures, et ensuite elle va se dire que oui, ça confirme les hypothèses de Babcock, Jeans, Zwicky, Smith, Hort, c'est-à-dire une très longue lignée de gens qui ont œuvré pour petit à petit, chacun mettant sa pierre, produire une hypothèse. Mais en faisant ça, des opérations très pragmatiques, dans le même temps, elle dévoile un nouvel imaginaire puisqu'elle confirme ou elle suppose que là où on ne voit rien, il y aurait quelque chose. Et elle nous pose une colle pour les 50 ans à venir puisqu'on ne sait toujours pas.
Et comment vous avez conçu chacun différemment votre art personnel ? Vous avez du coup mêlé plutôt la partie théâtre, poésie à la danse. Est-ce que ça s'est fait, c'était un travail commun ? Est-ce qu'il y en a un qui influence l'autre une fois qu'il a présenté sa partie ? Comment ça s'est entremêlé, en fait, ces deux choses ?
En fait, en 2015, donc, on nous a proposé de participer à un festival, le Félixval, et nous avions, avec une amie danseuse, chacune un solo, et on a demandé à Gabriel d'écrire quelque chose pour relier ces deux solos. Il s'avère qu'il a finalement écrit un troisième solo. Donc en fait, c'est super parce qu'on a fait ensemble le tressage de ces trois choses pour rentrer aussi dans l'histoire qu'il proposait. Ça s'appelle « Parce qu'on n'est pas encore mort ». Et ça, c'était en 2015. Il s'avère que Pour cette nouvelle création, la compagnie Allégaillan nous a fait cette demande, Michel Allégaillan, le directeur artistique, et ça s'est plus ou moins passé de la même manière, c'est-à-dire que moi j'étais déjà sur la réflexion d'un solo, qui est en fait le solo final de la pièce sur la chaconne de la partita 2 de Bach. Donc j'ai œuvré en fait un petit peu de mon côté sur ce solo-là, en ayant un petit peu, évidemment, au fur et à mesure, les échos du travail de Gabriel. Mais Gabriel, lui aussi, travaillait de son côté le texte avec les retours de Michel, puisque Michel nous a épaulés, nous a fait un regard extérieur, en fait, sur cette création. Et puis ensuite, au fur et à mesure, nos chemins se sont, en fait, retrouvés pour mettre sur le plateau ce qu'on avait préparé, et puis évidemment, ensuite, il y a eu de la réécriture aussi du texte, la danse. En fait, il fallait trouver le sens de ma présence aussi sur tout le texte, en fait, donc sur plus de 3/4 d'heure. Et donc, on a fait ce tissage entre les deux disciplines sur le plateau au fur et à mesure.
Vera Rubin, du coup, on le disait, a travaillé sur la question de la matière noire. Elle a été la deuxième femme astronome élue à l'Académie nationale des sciences en 1981 et elle était très engagée à ce que les femmes osent aller dans le monde scientifique. Elle n'a pourtant jamais reçu de prix Nobel malgré le travail colossal qu'elle a fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré chez elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement aussi dans la construction de la pièce sur son travail, sur son parcours?
Michel nous a seulement lancé ce sujet femme de science. 15 jours plus tard, Gabriel tombe sur un article relatant le décès de Vera Rubin qui était en décembre 2016. Puis en plus, il y a la matière noire, donc avec la puissance poétique qu'il y a derrière.
Oui, effectivement, je suis tombé sur cet article du Monde Diplo qui retraçait un peu la vie et l'œuvre quoi, de Vera Rubin. Et j'avoue que je ne me serais pas lancé là-dedans sans cette petite étincelle qui s'est allumée où je me suis dit « Ah, mais en fait, j'ai une copine qui a fait un doctorat en astrophysique et elle pourrait m'épauler dans cette recherche. » C'était des choses qui m'étaient inaccessibles, en fait, tout seul. C'est Sandrine Schlegel qui travaille donc en Belgique à populariser la science dans une asso formidable qui s'appelle Philocité. C'est ça qui m'a stimulé. Et ensuite, plus on s'est intéressé à elle, plus ça a été passionnant. Et encore, on découvre aujourd'hui des choses, parce qu'on va faire une soirée avec Isabelle Vauglin de l'Observatoire de Lyon, à Lyon, aux Échappées Belles. Et donc, en échangeant avec elle, on a une autre perception de Vera Rubin. Et un des trucs qui nous touche particulièrement, en tout cas, moi je me dis, c'est incroyable, c'est qu'elle a écrit, dans la fin de sa biographie, qui n'est pas encore publiée en français, c'est dommage, mais elle a écrit des vies remarquables de femmes qu'elle a tirées de l'ombre. Voilà, pour faire changer l'histoire, quoi. Déjà, par ses conceptions scientifiques, elle fait changer le cours de l'histoire, elle fait bifurquer, quoi. Et en plus, par volontairement aussi, comme ça, une fois qu'elle a réussi à s'imposer dans un monde extrêmement difficile pour elle, parce que dominé par les hommes, elle écrit des biographies de femmes qui ne doivent surtout pas être oubliées et qui doivent rentrer dans le panthéon masculin, quoi, fracasser la porte du panthéon. Voilà. Et ça, c'était une des belles découvertes, quoi.
C'est vrai que cette soirée va être, je pense, superbe avec Isabelle Vauglin, parce que j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle ait souligné le fait que Vera Rubin avait d'autres travaux, en fait. Elle a évidemment fait d'autres recherches que celles de la matière noire. À chaque fois, ces travaux-là sortaient, comme on le dit dans le spectacle, du centre. En fait, ils étaient un petit peu marginaux et ils avaient tendance à révéler des choses qui suscitaient des attentions particulières. Cette femme semble avoir eu une vie à la marge et en même temps, c'est ce qui lui a permis quand même de s'imposer à sa manière dans ce monde-là.
Je précise juste un truc, parce qu'on disait que, du coup, qu'elle a expérimenté plusieurs sujets, et ce que mettait en avant Isabelle Vauglin, c'était justement qu'en fait, elle a dû suivre son mari, qui avait des postes plus prestigieux, etc. Alors parfois, elle avait un poste plus prestigieux et tout ça, mais en tout cas, elle était obligée de suivre son mari, qui pourtant, elle l'écrit dans sa biographie, « J'ai choisi le bon mari, parce qu'il m'a vraiment aidé, c'est lui qui la pousse à rentrer en doctorat, parce qu'elle hésite et tout, donc il l'a vraiment soutenue. »
I started looking at the sky, probably at age 10 to 12. I just got hooked on watching the stars. Within a short period of time, I really got more interested in watching the sky than in going to sleep.
So I went to the library, read books, built a little telescope, and just decided I wanted to be an astronomer. I had a physics professor in high school who didn't really know how to relate to a young girl who was interested in science. When I finally went up to him and told him I was going to college on a scholarship, he said, well, you should do all right as long as you stay away from science.
La démarche qu'a proposé Michel, c'était vraiment de faire un spectacle qui rende accessible le savoir. Là, le parti pris, c'était vraiment de rendre accessible un truc qui, pour le commun des mortels, il faut bien le dire, est quand même assez compliqué. Et pour ça, on avait besoin de quelqu'un qui s'y connaisse, qui puisse nous parler simplement, mais avec des connaissances extrêmement précises, pour que nous, ensuite, on puisse s'en emparer et faire quelque chose d'artistique avec, quoi.
J'insiste sur cette importance-là aussi, c'est-à-dire quand même qu'il y a un sujet extrêmement complexe sur lequel Gabriel écrit entre 45 et une heure de texte. Donc même si ça parle pas que de science, parce qu'il parle aussi un petit peu de la vie de Vera, évidemment, justement, de son mari, de certaines anecdotes, il y a quand même un propos scientifique. Donc pour le redonner en poésie, il faut sacrément se l'approprier.
Pourquoi c'était important de travailler justement, enfin d'avoir des conseils de la part d'une cosmologiste pour créer une pièce de danse et de théâtre finalement?
Et c'était important aussi d'avoir, je pense, une conseillère scientifique. C'est-à-dire, puisqu'on travaille sur les femmes de science et tout ça, Sandrine a pu nous donner un peu son point de vue sur son parcours aujourd'hui en tant que doctorante. Elle, en l'occurrence, elle a choisi de quitter l'université parce que voilà, le contexte est extrêmement dur et tout ça. Donc c'était hyper riche d'avoir son apport. C'est pas que moi, un mec qui écrit l'histoire, quoi. On l'a écrite à plusieurs.
Dans le spectacle, à un moment donné, il y a justement ce basculement où elle décide donc de sortir du champ mainstream pour se concentrer sur l'étude des galaxies, entre autres d'Andromède, des galaxies spirales. Et ça, c'est suite, entre autres, enfin à plusieurs choses, mais dans le spectacle, on relate un coup de téléphone qu'elle va avoir, où c'est la course au papier pour tout le monde. Alors ça, je ne sais pas si tu l'imagines, ça c'est complètement imaginé, oui, voilà. Mais en fait, non, mais moi, ça reflète la situation et surtout, Sandrine, elle nous en a parlé de ça au moment où on a fait nos premières réunions avec elle. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'à l'époque, avec Internet, etc. Enfin, le nombre d'articles qui sortent à la minute. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une course au niveau des chercheurs, visiblement, qu'il faut pouvoir suivre. C'est...
Pour préciser, au moment où, où Vera, elle choisit de travailler sur M31, la galaxie spirale Andromède, là où elle va découvrir la matière noire. C'est-à-dire qu'elle elle évite le sujet sur lequel elle travaille à l'époque, qui sont les quasars, qui est le truc à la mode, en fait. Elle dit non, ça, en fait, j'en ai marre d'avoir trop de pression pour publier. Les gens m'appellent tout le temps pour me demander sur quoi tu travailles, t'en es où, etc. Tu vas publier quand, machin. Et donc elle dit, ok, j'en ai marre, je travaille sur un truc plus tranquille que personne n'a jamais regardé et que voilà, on s'en fout en fait, un truc bon qui intéresse personne à ce moment-là. Et c'est là qu'elle va avoir sa grande révélation. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que dans les années 60, elle sent cette pression monstrueuse à la publication, alors que si on regarde aujourd'hui les chiffres des publications des chercheurs, c'est divisé, je pense, par 10 ou 12. Le nombre de papiers qu'elle devait publier par an ou même tous les 5 ans. Enfin, c'est-à-dire qu'elle publiait 3 papiers tous les 8 ans, quoi. Un truc, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour donner. Et aujourd'hui, on est obligé de. Enfin, voilà, on connaît la situation, quoi. On est obligé de publier pour être nommé, pour avoir des crédits pour l'université, etc., etc.
Vous avez choisi de parler et de ses résultats scientifiques et de sa vie aussi, de son parcours, de ses choix. Pourquoi avoir voulu représenter ces deux pans, en fait, différents?
Parce qu'il faut avoir toutes les données pour parler d'une personne et qu'en effet, comme l'a dit Gabriel, son mari l'a poussé à entrer en thèse et à faire ce travail-là. Je sais, qui c'est qui dit ça, que derrière tout grand homme, mais c'est ça, c'est peut-être que, enfin, cette femme, elle a aussi peut-être réussi et découvert ce qu'elle a fait parce que elle a trouvé entre guillemets le bon mari, en tout cas un homme qui a su lui donner l'espace dont elle avait besoin. Et donc c'est ce qu'il a fait, quoi, ce qui la caractérise, le choix d'avoir épousé cet homme. C'est assez incroyable, c'est raconté dans le spectacle. En fait, à 15h, elle veut rentrer du travail pour accueillir ses enfants qui rentrent de l'école. Donc elle fait des choix comme ça pour concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle, et pour trouver, je pense, un équilibre. C'est vrai que c'est une question aussi extrêmement contemporaine. Voilà, c'est complexe. C'est une question, évidemment, que beaucoup de gens se posent, que quand on est danseuse, évidemment, on se pose aussi, hein, de concilier ce genre de questions. Donc, je pense que c'est bien d'en parler. Ça te
parle pas. Quitter son travail à 15h30, ça veut dire travailler sur deux tiers du temps, et ça veut dire qu'elle a eu aussi un tiers de salaire en moins. C'est-à-dire que l'institution pour laquelle elle bossait lui a dit « Ok, vous pouvez partir à 15h30, en revanche, on récupère le temps que vous ne travaillez pas sur votre salaire. » Donc en gros, elle a fait toute ça, une grosse partie de sa carrière, parce qu'elle a eu quand même 4 gamins, donc bon, voilà, ça prend du temps, avec un tiers du temps en moins et un tiers de paye en moins. Je trouve que c'est important, et en fait vous posez la question un peu pourquoi la vie est l'œuvre, parce que je pense qu'effectivement les conditions matérielles de la recherche déterminent énormément de choses pour la pensée, quoi. Dans quelles conditions on pense et tout. Par exemple, elle fait son doctorat en prenant les cours du soir. Ça, c'est énorme, quoi. Je dis waouh, après avoir fait un master et tout, voilà, pour aller jusqu'au doctorat, en fait, faut y aller le soir, après des journées denses et tout ça.
Autour de la pièce et du cycle art et sciences de la compagnie, il y a des discussions, enfin des ateliers qui sont organisés avec des enfants ou des collégiens. Je pense que c'est important pour vous qu'il y ait une transmission, mais vous pensez que c'est important à ce niveau-là, du coup, que le théâtre ou la danse servent en fait à parler de ce genre de sujet-là, de l'égalité, de femmes oubliées dans la science?
Il y a plein de choses à dire. Déjà, je vais repartir de l'histoire. La compagnie Allais et Gaillant, donc, qui a 42 ans d'existence, mène depuis 26 ans maintenant un travail d'éducation artistique au cœur de la cité, puisque c'est un des fondements de la compagnie. Elle a son travail de création et elle a son travail de formation, que ce soit école amateur ou école professionnelle, et son travail d'éducation artistique, donc qui est cette insertion de l'art au cœur de la cité. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on prend toujours les créations, parce que la création, c'est le cœur de notre travail, hein, c'est ce qui nous fait vibrer, mais on prend toujours la création pour faire ce travail de transmission dans les écoles, collèges, même universités, etc. Il est évident que de s'approprier ou de se réapproprier des sujets, bien sûr comme l'égalité, mais des sujets de connaissances, en fait. L'art, il est là pour ça, il est là pour le partage des connaissances, en fait. Et Michel dit souvent que, enfin, il n'y a pas que Michel qui dit ça d'ailleurs, mais qu'il faut redonner au peuple dont nous sentons faire partie ce qui lui appartient. Donc évidemment que c'est la mission de l'art, c'est de pouvoir redonner ces connaissances-là, que ce soit du théâtre, de la danse, enfin, j'ai envie de dire peu importe, nous c'est là-dedans que ça s'exprime, mais en effet, si on peut sensibiliser les publics à des nouvelles connaissances, et puis tout d'un coup susciter en eux des curiosités, des passions, enfin, évidemment, c'est fait pour ça. Sans parler évidemment du fait qu'une pratique artistique va permettre aux personnes, aux êtres humains, de se révéler à leur tour. Donc, ne serait-ce que dans le rapport à l'autre, ou dans déjà son rapport à soi, ce qui est pas mal, mais ça va lui permettre, pour les enfants, tout d'un coup, ceux qui sont plus en difficulté scolaire, ben, peut-être qu'ils vont se sentir plus à l'aise, en fait, dans la pratique de l'art. Donc peut-être qu'ils vont gagner de la confiance pour les enseignements fondamentaux. Enfin, c'est vrai que ça, l'art, ça révèle l'être à lui-même, hein. Donc c'est sa fonction première.
Moi, quand je pense à la danse, je pense à l'équilibre, au fait de tomber, de se des choses comme ça, la gravité. Est-ce que pour toi, la danse, c'est un petit côté scientifique ?
Oui, complètement. Oui, en fait. Enfin, scientifique, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Comme je vois moi, hein, je vois la danse et mon corps comme une horloge. Et tout d'un coup, il va falloir que je huile comme il faut les choses et que je huile les rouages, quoi, et que je comprenne tout le fonctionnement minutieux. Et voilà. Donc, c'est une espèce de logique de conscience poussée à l'extrême parce que ces rouages-là, ils sont évidemment à l'intérieur. Donc, ça demande une introspection très forte. Et puis les équilibres, oui, c'est vrai que c'est scientifique, mais c'est aussi... voilà, donc il y a aussi toute l'anatomie, évidemment, à comment tu prends conscience de l'anatomie et dans la pure connaissance de ce que c'est qu'un corps, mais aussi dans le ressenti, évidemment. Hein, c'est... Tiens, là, est-ce que tu sens ton épaule? Tu sens tes tendons? Tu sens tes... Voilà, comment ça... Et donc, pour chaque millimètre de son corps, c'est vraiment la pratique qu'on a aussi dans notre technique à la compagnie, et que les danseurs de la compagnie ont. Michel l'appelle ça la méditation en mouvement. Voilà, c'est vraiment ça, une espèce de quête vers une forme d'éveil.
I study the universe, and that's a lot. My best advice is to do what you want. Listen to what everyone tells you, and then decide what it is you really want to do, and go ahead and do it.
Je remercie Charlotte, Philippe et Gabriel Pérez d'avoir répondu à mes questions. Alors amateurs de danse ou de théâtre, je vous invite tous et toutes à aller voir leur spectacle ce soir au Diapason sur le campus de Beaulieu. C'est à 20h30, le tarif est de 6€ pour les étudiants. Et surtout, je vous invite à vous renseigner sur l'astrophysicienne Vera Rubin, une femme vraiment incroyable.
Bah écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
Syllab.
À quel moment?
Maintenant.